enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Il y a une douleur dans le cœur de Dieu pour ses enfants qui gaspillent leur potentiel, qui ne vivent sans aucune direction ou sans jamais trouver leur raison d'être, sans jamais connaître la joie de faire quelque chose, de contribuer. Et dans mes moments de prière, en préparation pour ce série de messages, Dieu m'a fait comprendre la douleur dans son cœur pour ses enfants, quand ils voient un peu comme un parent qui va voir son enfant, qui va juste tourner en rond et jamais arriver à l'accomplissement de ses potentiels et sa raison d'être. Et parfois, un parent, on peut voir le potentiel chez nos enfants, puis c'est une douleur quand ils n'arrivent pas vraiment à combler tout ce qu'il peut faire ou tout ce qu'il peut devenir ou être. Et c'est la même chose avec Dieu. Il y a une douleur dans son cœur pour ses enfants qui n'arrivent jamais à réaliser ou combler le potentiel qu'ils ont. Et c'est pour cette raison que nous voulons apprendre à être des hommes et des femmes utiles entre les mains de Dieu. Nous avons vu ensemble partout, Ancien Testament, Nouveau Testament, par des paroles, par des enseignements, par des gestes symboliques, des illustrations, comment que la Bible nous enseigne l'importance de devenir des personnes, des hommes et des femmes utiles entre les mains de Dieu. Et pour apprendre comment devenir utile, nous avons fait comme Jérémie, et nous avons descendu d'une façon virtuelle. Deux reprises, j'ai montré une vidéo d'un potier qui était à l'œuvre parce qu'on voulait visiter la maison du potier pour voir comment qu'un potier travaille l'argile, parce qu'il y a des leçons à apprendre quand on visite la maison du potier. Alors, nous avons fait comme Dieu a demandé à Jérémie, en Jérémie chapitre 18, si vous avez votre Bible, Jérémie 18, sinon les passages sont sur l'écran. Et nous avons descendu d'une façon virtuelle à la maison du potier pour voir un potier à l'œuvre. Et Jérémie chapitre 18, c'est ce que Dieu demande à Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Ça veut dire j'ai quelque chose à t'enseigner, mais je veux que tu regardes, je veux que tu vois, je veux que ça soit une illustration. Il dit, quand tu vois le potier à l'œuvre, Jérémie, tu vas entendre mes paroles. J'ai quelque chose à t'enseigner à la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier. Voici, il travaillait sur un tour. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, on découvre, quand on visite la maison du potier, puis on prendra pas le temps de regarder la vidéo encore, mais vous avez l'image d'un potier qui travaille sur l'argile, avec l'argile sur un tour. Et quand on visite la maison du potier, je crois qu'on découvre deux éléments essentiels pour devenir une vase utile, bien formée par le potier. Nous avons déjà découvert le premier, et ce matin, nous allons terminer avec la deuxième. Et le merveille d'un potier, c'est qu'il va débuter avec rien. Il va débuter avec un tas d'argile inutile et il va créer quelque chose de toute beauté et quelque chose d'utile avec. Et c'est justement le désir de Dieu. C'est de prendre notre vie, travailler notre vie comme un potier avec l'argile afin que nous devenions une créature utile, quelque chose de bien formé et utile. Et le premier des deux éléments essentiels pour devenir utile qu'on a découvert les trois semaines passées, les trois derniers messages, nous avons découvert que le premier élément essentiel pour devenir utile, c'est le mouvement. Le mouvement. Une vie utile est distinguée par le mouvement, mais le mouvement dans la bonne direction. Nous avons appris ensemble qu'il faut le mouvement. Le tour, ça tourne, ça bouge, c'est la vitesse. Il faut qu'on soit en mouvement. Et mouvement dans la bonne direction, ça veut dire un mouvement envers Dieu et un mouvement envers les autres. C'est ce qu'on a appris depuis les derniers trois messages. Il faut qu'on agisse envers Dieu dans la louange, l'adoration, la parole et la prière. Et il faut aussi aller vers les autres. Et la seule autre chose que je veux dire à ce sujet, je dis plus rien au sujet d'un mouvement envers Dieu et les autres, sauf de citer la mère Teresa qui dit « Hier est passé ». Demain n'est pas encore arrivé, nous avons qu'aujourd'hui, commençons. Commençons, aujourd'hui, maintenant, fais quelque chose. Fais un pas envers Dieu. Dans la prière, la parole, la louange, l'adoration, approchez-vous de Dieu, il va s'approcher de vous et fais quelque chose envers les autres. C'est ce que nous avons appris ensemble, ça va ensemble, à s'approcher de Dieu, s'approcher les autres, aider les uns les autres, aimer les uns les autres, encourager les uns les autres, servir les uns les autres, fais quelque chose pour aider votre prochain, aime Dieu, aime ton prochain, ça va ensemble. Si vous savez pas quoi faire pour aider quelqu'un, on va vous donner des choses à faire. Impliquez-vous à Option, impliquez-vous au ministère Source, visitez les prisonniers, impliquez-vous dans la pouponnière, l'éducation chrétienne, la jeunesse, ici à l'église. Nous avons des ministères, nous avons des façons de vous mobiliser, de vous faire bouger un mouvement envers Dieu et envers les autres. Ça débute avec le mouvement. Il faut qu'on commence à quelque part à prendre des pas concrets, des pas tangibles envers Dieu et envers les autres. C'est comme ça que nous devenons des personnes utiles. Ça prend le mouvement. La deuxième chose que ça prend, pour devenir utile, ça prend non seulement le mouvement, mais ça prend également la main de Dieu. Quand on visite la maison du potier et on voit le potier qui travaille l'argile, on voit qu'il y a du mouvement. Sans le mouvement, il est impossible que le potier fasse un travail. Mais en même temps, il s'apprend les mains, l'application des mains sur l'argile. On remarque l'importance des mains. L'art du potier est dans ses mains et c'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit en Jérémie chapitre 18, 6, encore une autre fois? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Le mouvement, ça signifie nous envers Dieu. Le mouvement, c'est qu'est-ce que nous on fait envers Dieu. On prend pas envers Dieu. La main, ça signifie Dieu envers nous. Dieu qui met sa main sur nous, comme le potier qui sert de ses mains pour former l'argile. Il faut faire attention. Il faut faire attention que notre vie ne soit pas seulement le mouvement et l'activité, même l'activité spirituelle, mais vide de la touche de Dieu, la présence divine. Car le mouvement sans la main de Dieu ne sert à rien. Le mouvement spirituel, même toutes nos activités spirituelles, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, ne vaut rien. C'est le gaspillage de l'énergie et devient une absurdité sans la main de Dieu sur nous. Il faut que nous avons la main de Dieu sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles, sur nos ministères et sur l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça ne prend, pour que le potier peut travailler, c'est pas seulement le mouvement, mais ça prend la main. Enlève la main de Dieu sur qu'est-ce que nous faisons et ça devient une absurdité. C'est l'absurdité qui a témoigné Ézéchiel en Ézéchiel chapitre 10 et 11. On n'a pas le temps de regarder ensemble, mais Ézéchiel, il témoignait quelque chose d'absurde. Il voyait la gloire de Dieu qui a quitté le temple pour retourner sur la montagne. Contrairement à qu'est-ce que nous voyons en Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous voyons Dieu qui quitte la montagne pour aller avec son peuple. Mais Ézéchiel, il témoigne la gloire de Dieu qui quitte le peuple, qui quitte le temple pour retourner sur la montagne par rapport aux actions et comportements des gens. Mais toutes les activités continuent. Puis si vous lisez Ézéchiel 10 et 11, vous allez voir qu'Ézéchiel, le prophète, il voit la gloire de Dieu quitter l'église. Mais toutes les activités continuent. Les gens ne savent même pas que la gloire et la main de Dieu est quittée et les gens n'arrêtent pas de planifier, organiser, agir, chanter, offrir leurs holocaustes, mais la gloire est partie. C'est l'absurdité. Dieu n'est même plus là, puis l'Église continue. Elvis has left the building. Connaissez cette expression-là? Combien connaît Bono du groupe U2, les musiciens et le groupe rock musical U2? Bono, c'est le chanteur principal de ce groupe-là. Et il y en avait plein religieux. Et lui était sur Oprah Winfrey. Il faisait une entrevue avec Oprah Winfrey, à un moment donné, puis ils ont demandé son opinion sur l'Église. Qu'est-ce que tu penses de l'Église? Puis lui, sa description de l'Église aujourd'hui, c'est « Elvis has left the building ». Parce que « Elvis has left the building », c'est une expression en anglais, parce que quand Elvis Presley il faisait ses concerts, à chaque fois qu'il terminait le concert, les gens criaient, puis ça chantait, puis ça applaudissait, parce qu'il voulait encore plus, encore plus, encore plus. Puis Elvis revenait, puis il chantait un chant, puis ça criait encore, puis là, il revenait, puis il chantait un chant. Puis à un moment donné, il fallait que l'animateur arrive sur la scène, puis il dit « Ça donne à rien de crier, puis chanter « Elvis has left the building ». Il est parti. Ça donne rien de faire ce que vous faites parce qu'il est parti. Elvis has left the building. Et selon Bono, sa description des églises aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit, les gens chantent, les gens applaudissent, tout ça. Mais Elvis has left the building. Ça veut dire que Jésus n'est plus présent dans l'église. Il y a beaucoup d'activités religieuses. Les gens peuvent faire des prières, ils peuvent chanter des chants, ils peuvent allumer des chandelles, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Jesus has left the building. Jésus n'est plus là. Et c'est l'absurdité de faire toutes sortes d'activités spirituel sans la présence de Dieu. Et c'est ce que Ézéchiel a témoigné. Il a témoigné l'Église en action sans la main de Dieu. Dieu avait enlevé sa main et sa présence et il a été sur la montagne. Elvis has left the building. Combien d'églises qu'on connaît aujourd'hui qui sont ici au Québec, qui sont seulement des monuments historiques de notre époque, des beaux bâtiments, des cathédrales, c'est des sites touristiques, mais ça signifie une action de notre époque. Parce que Jésus n'est plus là. Et ma prière est, Seigneur, nous ne voulons jamais rien faire à l'Église Évangile de la Rive-Nord. C'est pas seulement le mouvement ou l'action ou la planification ou l'administration ou la musique. Ça donne rien d'applaudir fort et de crier, chanter, servir, donner si nous n'avons pas ta présence. Parce que plus que rien d'autre, ce qu'on cherche dans l'Église, c'est la présence manifeste du Seigneur Jésus-Christ. Mets ta main sur nous. Est-ce que je peux entendre? Amen à cela. C'est ta main que nous avons besoin. La main de Dieu. La main. Ézéchiel la manque parce que sans la main de Dieu, sans sa présence, son implication, tout ce qu'on fait est absurde, inutile, parce que c'est Dieu qui nous rend utile. Puis il faut qu'on permet, plus que permet, il faut qu'on invite Dieu à imposer sa main sur notre vie afin de nous former à quelque chose d'utile. C'est rien que la main de Dieu qui me rend utile. Sans lui, je ne peux rien faire. À rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans lui, je ne peux rien faire. Malgré tous mes meilleurs efforts, mouvements, fonctions multitâches, personnalité type A, go, 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 agir, agir, faire et accomplir, connecter, proactif, décisionnel. Malgré tout cela, il faut que j'arrête de temps en temps pour m'assurer que la main de Dieu est avec moi et la main de Dieu est sur ma vie et mon ministère. Et c'est la même chose pour tous et chacun de nous. Dans nos ministères et nos vies préoccupées, hyperactifs, de connecter, multitâches, de va et de vient, il faut tous arrêter de temps en temps pour s'assurer que nous n'avons pas seulement le mouvement dans notre vie, mais s'assurer que la main de Dieu est sur nous. Car sans la main de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que nous allons faire dans un instant. Nous allons inviter Dieu à mettre sa main sur nous. Dans la Bible, la main de Dieu égale quoi? Qu'est-ce que ça veut dire sur la main de Dieu sur moi? Dans la Bible, la main de Dieu égale provision, protection et puissance. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Combien sont pour provision, protection et puissance? Montrez-moi vos deux mains. Hein? On est pour ça! Toutes ces choses nous voulons. Toutes ces choses nous avons besoin. Mais la main de Dieu signifie également la pression. La pression. Combien sont pour la pression? C'est non seulement que la main de Dieu égale puissance, provision, protection, mais la main de Dieu ça signifie également la pression. Il faut que le potier applique la pression s'il va former l'argile. Avoir la main de Dieu sur nous, c'est d'avoir la main du potier qui applique la pression. Le potier ne peut former l'argile comme qu'il désire sans appliquer la pression. Pour que l'argile prenne forme et devienne utile, il faut qu'il bouge, mais il faut aussi que le potier applique ses mains et y ajoute la pression. Sans la pression, c'est impossible de former. Êtes-vous prêt que Dieu applique la pression? Moins d'amen. Si tout le monde cherche puissance, tout le monde cherche provision et protection, mais il est impossible qu'on devienne des gens utiles sans que le potier ajoute la pression. Ce sont les moments de pression qui nous forment. Il faut des moments qu'on passe à travers des tests, où ce qui augmente la pression, des tribulations, des douleurs, des injustices, des choses incompréhensibles, où ce qu'on ressent, comment se ressentir la pression. Ça, c'est le potier qui commence à appliquer la pression à nos vies pour nous former. Et la pression que Dieu impose prend deux formes, deux façons que Dieu applique la pression. pression sur nos vies avec ses mains. La première façon, c'est par la conviction du Saint-Esprit. Combien ici, c'est quoi la conviction du Saint-Esprit? Hein? Ça, c'est la conviction, le sentiment qu'on peut pas se débarrasser, qu'il faut qu'on arrête quelque chose, il faut qu'on change quelque chose, il faut qu'on demande pardon à quelqu'un pour quelque chose, il faut qu'on demande pardon à Dieu pour quelque chose, il faut qu'on se repentit de quelque chose. On appelle ça la conviction du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit nous harcèle, quand le Saint-Esprit nous convainc, quand le Saint-Esprit nous laisse pas tranquille. Il sait qu'il y a toujours quelque chose, là, puis on essaie des fois de ne pas l'écouter. On met nos iPods, on met nos écouteurs, on met la télévision, la radio partout, parce que dans les moments de silence, c'est là que le Saint-Esprit nous visite encore pour quelque chose dans notre vie. On appelle ça la conviction du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Quand vous avez la conviction du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, et c'est bien. C'est Dieu qui applique la pression parce qu'il veut vous former. Vous savez c'est quoi la conviction du Saint-Esprit? C'est bien ça. C'est comme ça que Dieu applique la pression. Deuxième façon qu'il applique la pression, à part de la conviction du Saint-Esprit, le sentiment que le Saint-Esprit vous dit qu'il faut quelque chose change dans votre vie. La deuxième façon qu'il applique sa main et applique la pression, c'est par les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Dieu le potier, il sert également les circonstances de la vie pour nous former. Mais malheureusement, on ignore la main de Dieu dans nos circonstances et on manque l'occasion d'être formé. Moi, je trouve que souvent, les gens manquent et ignorent et ne voient pas la main de Dieu dans leurs circonstances. Mais une des façons que Dieu applique sa main dans nos vies pour nous former, pour devenir utile, c'est qu'il sert des circonstances dans nos vies. Et là, c'est là qu'on voit la main de Dieu qui est à l'œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Evan le Tout-Puissant. Combien a déjà vu le film Evan le Tout-Puissant? Hein? Evan le Tout-Puissant, c'est un film, c'est pas un film formidable, mais je crois que le producteur avait quand même des bonnes intentions. C'est une façon de présenter, c'est un film qui essaie de présenter l'Arche de Noé dans nos jours. Et c'est sûr que c'est pas formidable, là, c'est pas vraiment l'Arche de Noé, mais il y a quand même des bonnes intentions dans qu'est-ce qu'il essaie de faire. Et nous avons une scène ici, je vais vous montrer une scène du film Evan le Tout-Puissant. Puis c'est une scène entre l'épouse. Et Evan, c'est comme l'histoire de Noé. Correct? Evan, c'est Noé à New York, aujourd'hui, dans le temps moderne, là, qui essaie de que Dieu l'appelle à bâtir une arche. Puis il y a une scène dans le film Evan le Tout-Puissant entre l'épouse d'Evan, okay, qui est Noé, et Dieu. Parce que son épouse ne comprend pas ce qui se passe, comme j'imagine que l'épouse de Noé ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait non plus. Hein? Que son mari, tout d'un coup, il commence à construire une arche ou un bateau dans le cour en arrière, quand il n'y a jamais eu de pluie depuis l'histoire de l'humanité, parce qu'il dit qu'il va avoir la pluie. Je suis certain qu'il y avait des questions, elle aussi. Et dans le film ici, on voit que son épouse ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis il y a une scène ici que je vais vous montrer entre l'épouse d'Evan, qui est au restaurant, et Dieu. C'est pas ton Dieu typique. Ici, c'est Dieu qui est un serveur, correct? Dieu, c'est un serveur dans le resto, et ici, dans cette scène ici, elle pense que c'est un serveur, puis demande la question, comment que ça va? Puis un petit échange entre Dieu et elle, mais qui communique quand même une vérité biblique par rapport à la main de Dieu et la façon que Dieu travaille dans nos vies. On va le montrer sur l'écran ici.
Oh, excusez-moi, je pourrais en avoir une autre, s'il vous plaît?
Une petite minute.
Merci.
Excusez-moi, est-ce que ça va?
Oui. Non. Mais c'est une longue histoire.
Eh bien, j'adore les histoires. Vous savez, je suis moi-même un assez bon raconteur, à ce qu'il paraîtrait.
Eh bien, mon mari, vous avez entendu parler de Noé New York.
Le gars qui bâtit une arche.
C'est lui.
J'adore cette histoire. Celle de Noé et de son arche. Vous savez, la plupart des gens ne l'ont pas compris. Ils pensent qu'ils parlent de la colère de Dieu. Ils adorent l'idée que Dieu soit en colère.
Alors, de quoi est-ce qu'elle parle, cette histoire?
Eh bien, je crois que c'est une histoire d'amour qui nous apprend à avoir foi en l'autre. Il y avait deux animaux de chaque espèce qui sont restés l'un près de l'autre sans jamais se séparer. Exactement comme Noé et sa famille. C'est ensemble qu'ils ont tous pris place dans l'arche.
Mais mon mari, Evan, dit que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Comment est-ce que je dois réagir?
Comme si une chance se présentait. Je peux vous demander quelque chose. Si quelqu'un prie Dieu de lui donner de la patience, est-ce qu'il le rend patient? Ou est-ce qu'il ne lui offre pas plutôt l'occasion de devenir patient? Et si ensuite il lui demande du courage, est-ce qu'il le rend courageux ou lui offre l'occasion de devenir courageux? Et si une personne prie pour que sa famille soit plus unie, vous croyez que Dieu les foudroie de sentiments d'amour et de bienveillance? Ou ne leur offre-t-il pas l'occasion de s'aimer les uns les autres? Bon, eh bien, il faut que je me sauve. J'ai plusieurs personnes à servir. Bon appétit.
Tout ça n'a rien d'étonnant quand on se rappelle ses propres...
Un petit échange entre Dieu et Evan de New York, ou Noé, mais qui communique quand même une vérité biblique. Si vous voulez l'amour, vous dites, je prie pour l'amour, que Dieu me donne l'amour. Qu'est-ce qui est communiqué ici est vrai? Est-ce que Dieu va verser l'amour dans nos cœurs d'une façon arbitraire ou sentimentale, ou est-ce qu'il va tout simplement nous donner quelqu'un à aimer? Quelqu'un qui n'est pas trop aimable. Vous priez pour l'amour, il nous donne plutôt l'occasion d'aimer. Ça, c'est biblique, ça. De pratiquer l'amour, de développer la capacité d'aimer. Alors, vous dites au potier, à Dieu, forme-moi dans l'amour. Oh, Dieu ne va pas seulement vous donner l'amour comme ça. Il vous donne des occasions pour que l'amour soit formé dans votre vie. On appelle ça la main de Dieu qui vous forme dans vos circonstances. Vous priez pour la patience. Une autre prière dangereuse. Combien ont déjà pris pour la patience? Right? Vous priez pour la patience. Dieu ne va pas seulement verser la patience dans votre cœur comme ça, d'une façon magique, tout d'un coup, wow, je suis un homme patient. Mais il va vous mettre devant une situation ou une personne difficile. Il va commencer à monter la pression, parce que c'est dans ces moments-là qu'il va vous former. Vous allez être formé. Il va vous donner le test pour voir si vraiment votre prière est sincère et vous donner la grâce pour passer en travail. Vous priez pour la foi. Dieu, donne-moi la foi. Well, il va vous donner, est-ce qu'il va juste verser la foi dans votre cœur ou il va vous mettre devant une décision ou une action difficile? Il va vous mettre devant une situation incompréhensible pour voir qu'est-ce que vous allez faire. Vous voulez la foi ou vous allez avoir un choix, une obéissance à faire, une décision, une attitude. Il va vous mettre devant une position pour appliquer la foi puis il va voir qu'est-ce que vous allez faire devant cette situation-là. Est-ce que vous allez abandonner? Est-ce que vous allez devenir amer, est-ce que vous allez chialer, critiquer, bouder, ou est-ce que vous allez appliquer la foi pour dire, le Seigneur me demande d'avoir la foi dans cette situation. La foi comme qu'on voit chez le prophète Habacuc. Le prophète Habacuc, c'est un des grands prophètes, c'est lui qui a fait la première personne à faire la grande déclaration renommée que Paul et Martin Luther a rendu vraiment renommée. Le juste vivra par la foi. Et la foi d'Habacuc, quand on voit cette déclaration, le juste vivra par la foi. Well, c'est quoi la foi? Est-ce que la foi, c'est juste un sentiment qu'on a dans notre cœur? La foi est pratiquée et formée devant des situations incompréhensibles. Quand il dit « Toutefois, je me réjouis en l'Éternel », quand il dit ici, en Habacuc, chapitre 2, verset 4, il dit « Le juste vivra par sa foi ». Well, qu'est-ce qu'il veut dire par la foi ici, le prophète Habacuc? Habacuc, chapitre 3, verset 17 et 19, il dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Ça veut dire, ça va mal. Quand ça va mal, quand il y a des choses que je ne comprends pas, nous on peut ajouter, quand que l'hiver ne termine jamais. Tant ici, j'arrête pas de me répéter, l'hiver est long, mais Dieu est bon. L'hiver est long, mais Dieu est bon. Bon, nous, on agitera avec le prophète quand l'hiver semble pas terminé. Parce qu'il y a toujours la neige, il fait toujours froid, puis on voit pas la saison de golf arriver. Si le juste vivra par sa foi, les gens prient pour la foi, la foi, la foi, je vais avoir la foi. Mais qu'est-ce qu'on cherche par la foi? C'est-tu la foi mystique, irréaliste, qui est toujours la tête des nuages, qui renie la réalité? Est-ce que c'est la foi matérialiste, qui cherche à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que c'est une foi manipulateur, qui cherche à contrôler Dieu? Ou est-ce que c'est une foi mordue, qui résiste de lâcher, qui tient ferme comme Habacuc, parce qu'elle dit, malgré toutes ces choses-là, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je comprends pas tout ce qui se passe dans ma vie, mais je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les yeux élevés au chef des chants avec instrument à cordes. Il dit, je vais louer, adorer le Seigneur malgré les choses que je passe à travers. Si on prie pour la foi, on va faire face à des situations incompréhensibles, douloureuses, injustes, mystérieuses. Mais la foi, c'est de dire, malgré ça, je me tiens ferme, je vais adorer le Seigneur, je vais avoir confiance dans le Seigneur, et c'est ça qui est la foi. Mais il faut passer à travers les tests, il faut passer à travers des moments de mystère comme ça pour que la foi soit formée en nous. Et combien sont prêts à dire, peu importe ce que je passe en travers, malgré l'hiver, malgré la neige et le froid, malgré les situations incompréhensibles dans ma vie, je vais louer le Seigneur. Je ne peux pas entendre un amen à cela, car c'est ça la foi. La vraie foi est manifestée dans ces circonstances-là. On prie pour la foi. Ouais, il faut passer à travers les tests pour avoir la foi. Le pardon. Vous priez pour le pardon, Dieu va vous donner quelqu'un à pardonner. Tout le monde sont d'accord avec le pardon, sauf quand il faut pardonner. On est tous pour le pardon, mais il faut pardonner. Priez pour le courage. Oh, Dieu va nous former, va nous mettre devant un défi, un choix à faire, un appel à l'obéissance qui prend courage. Le courage de faire, le courage de donner, le courage d'aller. On prie pour la sainteté. Il va permettre qu'on subisse la tentation pour avoir un choix à faire. Ça, c'est la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. C'est comme ça que Dieu nous forme. Écoutez bien et comprenez quelque chose ici ce matin. La sainteté n'est pas un sentiment. La sainteté n'est pas un état d'être. La sainteté est un choix quotidien. La sainteté, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne, mais quelque chose que nous donnons à Dieu. Ça, c'est la sainteté. La justification, qu'est-ce que Dieu nous donne au salut? Mais la sanctification, c'est qu'est-ce que nous donnons à Dieu par la suite. Alors, s'il vous plaît, ne priez pas pour la sanctification. Ne priez pas, Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, donne-moi la sanctification. Dieu ne peut pas vous rendre plus saint que vous êtes là en ce moment, parce que vous êtes justifié par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes rendu saint, sanctifié et parfait par le sang de Jésus. Alors, ça donne rien de prier pour la sanctification, parce que vous avez la sanctification par le sang de Jésus. On appelle ça la justification, et c'est un don que Dieu nous donne. Combien sont heureux pour le don de la justification? Montrez-moi vos deux mains. Vous dites, merci Seigneur pour la justification. Je suis rendu saint et juste par le sang de Jésus. Alors, s'il vous plaît, ne priez pas pour la sanctification, parce que la sanctification n'est pas quelque chose que Dieu nous donne. La sanctification, c'est quelque chose que nous donnons à Dieu. C'est quelque chose que nous, on offre à Dieu par rapport à la justification. Alors, qu'est-ce qu'il faut prier? Il faut prier, Seigneur, rends-moi, comme ça nous dit en Romains chapitre 12, verset 1, et ça nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul ne dit pas, prie pour la sanctification, il dit, offre votre corps dans la sanctification. C'est un don qu'on donne à Dieu. Il y a des personnes qui prient pour la sanctification. Là, il va tomber dans le péché dans la semaine, puis ils vont dire, « Ah, Dieu n'a pas répondu à ma prière. » Comme si c'est la faute à Dieu. Vrai ou faux? « Ah, j'ai prié pour la sanctification, puis ça n'a pas marché. » Parce que j'ai été tenté, puis j'ai tombé encore. Bon, c'est pas quelque chose que Dieu vous donne. C'est quelque chose que vous donnez à Dieu. Alors, quand vous priez pour la sanctification, vous voulez être sanctifié, que Dieu vous forme à quelqu'un qui est saint, agréable à Dieu, comme l'apôtre Paul dit, mais c'est de prier, « Seigneur, aide-moi. » À chaque jour, j'ai des choix à faire pour le mal et le bien, le péché ou la pureté, moi ou Dieu, la chair ou l'esprit. À tous les jours, nous avons un choix à faire. Qu'est-ce que je vais faire avec mon corps, mon temps, mon argent, mes pensées, mes paroles? Oui, il ne faut pas prier, Seigneur, rends-moi saint, sanctifie-moi, comme si Dieu va juste te zapper comme ça, vous allez être quelqu'un qui va marcher dans la pureté. Mais c'est de dire, Seigneur, donne-moi la grâce, la force pour qu'à chaque jour, quand je fais face à la tentation, j'offre mon corps à toi comme un sacrifice agréable, vivant à toi, qui est un service que je me rends à toi. Aide-moi à faire le bon choix et d'offrir mon corps et t'offrir à toi. Au lieu de toujours demander la sanctification, je t'offre la sanctification à toi comme une adoration pour la justification que j'ai reçue par le sang de Jésus-Christ. Alors, arrêtez de prier pour la sanctification parce que là, vous blâmez Dieu quand vous marchez dans le péché. Dites plutôt, Seigneur, donne-moi la grâce de donner la sanctification à toi. Et vous priez pour la sanctification, Dieu va vous mettre dans un aréna de tentation, où ce qu'il va avoir la pression, il va avoir un choix à faire, puis là, il va voir si votre prière est sincère ou non. Et quand vous passez le test, là, vous allez avoir un autre test, et un autre test, et c'est comme ça que la main de Dieu vous forme dans la vraie vie, devant des vraies tentations, pour vous rendre quelqu'un qui est capable de résister et marcher pur dans une société perverse et pornographique. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dieu impose sa main en permettant des tests, des moments de tentation que tout le monde passe à travail pour voir quel choix que nous allons prendre pour nous former dans la sanctification, pour nous former dans notre habilité de résister, de dire non, de marcher dans la pureté. Mais la bonne nouvelle est que jamais Dieu va nous tenter au-delà de notre capacité de résister. 1 Corinthiens 10, verset 13. Une promesse de la part de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Personne ne va être tenté au-delà de ses forces. Parfois, j'aimerais que Dieu n'ait pas une si haute opinion de moi. Combien peux-tu dire amen à cela? Right? Des fois, je passe en travail des tests là, pour dire, « Mais Dieu a une bonne opinion de moi. » Parce qu'il dit, « Je suis capable de supporter ça. » Alors, comprenez quelque chose. Quand vous passez à travers d'une tentation, d'un test, quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est la fournaise. La pression va t'augmenter. Ne dis pas, Dieu m'abandonne. Au contraire, Dieu est là et Dieu vous encourage. Et ça veut dire, quand vous dites, mais ça semble être plus que je peux supporter, ça veut dire que Dieu a une bonne opinion de vous. Ça veut dire que Dieu dit, vous êtes capable parce que vous passez à travers de rien que vous ne pouvez pas supporter. Il y a toujours une façon de supporter et de sortir de la tentation. Vous n'êtes pas obligé de céder à la tentation, à la pression, de décourager, de lâcher, abandonner, péché, vous pouvez avoir la victoire. Vous passez à travers d'un test. Dieu dit, je te fais passer à travers de cela parce que vous êtes capable. Vous êtes plus fort que vous pensez. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Vous êtes capable de passer à travers. C'est une promesse de la part de Dieu. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes plus fort que vous pensez. Vous pouvez résister à la tentation. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez victime à la pornographie, victime à l'adultère, victime au péché, victime à votre corps ou votre chair. Vous pouvez passer à travers. Nous sommes sans excuse. C'est pour cette raison que si on refuse de changer, si on refuse que la main de Dieu nous travaille comme ça, puis on continue dans notre état de péché, de rébellion, de résistance, bon, Dieu va mettre sa main sur nous, mais d'une autre façon et pour une autre raison. C'est une autre affaire que Jérémie a enseigné le peuple à la maison du potier. Il y a deux fois qu'il est descendu dans la maison du potier. La deuxième fois, c'est en Jérémie 19, quand il dit ainsi à parler l'Éternel, « Va, achète d'un potier une vase de terre et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à la rentrée de la porte poterie, et là tu publieras les paroles que je te dirai. » Et tu dirais, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda et vous habitants de Jérusalem, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et là, ça nous dit, tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. La deuxième fois qu'il a pris, il est allé à la maison du potier, il a pris le vase d'argile. Puis là, il a écrasé à terre dans des morceaux d'une façon dramatique, d'une façon graphique, pour démontrer les résultats, les conséquences de ceux qui résistent à ce que le potier les forme. Puis à un moment donné, un peu comme Jésus faisait, d'une façon imagée, d'une façon graphique comme ça, il écrase à terre parce qu'il voulait capter l'attention des gens. Puis vous voyez, ça c'est les conséquences de résister que le potier travaille, les conséquences de toujours céder à la tentation, les conséquences des péchés, quand on ne permet pas que Dieu nous travaille dans la sainteté. Puis il dit, c'est les morceaux qui sont à terre. Il dit, vous voyez les morceaux à terre? Il dit, ça, c'est les conséquences du péché. Dans le fond, Jérémie était en train de dire, il faut permettre que Dieu mette sa main sur nous avant qu'il mette sa main sur nous. Comprenez ce que je veux dire? Permet que Dieu mette sa main sur vous comme le potier avant qu'il mette sa main sur vous dans le jugement. Il faut qu'on permette à Dieu de nous briser afin que le péché nous casse. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on ne laisse pas Dieu nous briser comme le potier avec l'amour pour nous former, éventuellement le péché va nous casser. Combien de fois dans 24 ans de ministère dans l'Église? J'ai vu des dizaines et des centaines de personnes qui ont résisté à ce que Dieu les brise. Dieu les brise, Dieu les forme. Continuez dans le péché, continuez dans la rébellion, continuez à résister à la conviction du Saint-Esprit. Prendre des choix contraires à la parole de Dieu. Puis là, parce qu'ils n'ont pas laissé le potier les briser, là, leurs vies sont cassées en morceaux. Cassées en morceaux, un peu comme le vase écrasé à terre. Les vies en morceaux par l'adultère, la pornographie, la drogue, l'amertume, la violence, l'avarice, le mensonge, l'égoïsme, la rébellion. C'est juste à terre comme ça. C'est une des raisons pourquoi on veut que Dieu mette sa main sur nous, puis que Dieu nous brise et nous forme et nous sanctifie. C'est parce qu'on ne peut pas finir avec notre vie en morceaux à terre par rapport au péché. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, sanctifie, Seigneur, mets ta main sur nous, Seigneur, aide-nous à offrir nos corps à toi, parce que les conséquences sont quand même graves. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a bien compris cette réalité-là, quand il dit en Hébreux chapitre 10, c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Il parlait le jugement de Dieu contre ceux qui résistent toujours à la conviction du Saint-Esprit. Moi, je ne veux pas tomber entre les mains de Dieu. Moi, je veux inviter les mains de Dieu d'être placé sur ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui vont tomber entre les mains de Dieu, qui vont être écrasés par le péché, qui vont être cassés par le péché dans leur vie. Puis il y en a d'autres qui vont inviter Dieu de mettre leurs mains sur leur vie et commencer à les former avant qu'il ait trop tard. C'est ce que je prie, c'est ce que nous prions, de voir la main de Dieu dans nos circonstances, de lui donner carte blanche afin qu'on soit des personnes utile entre ses mains. Il dit, Seigneur, fais ce qui est nécessaire. Carte blanche dans ma vie. Fais ce qui est nécessaire. Implique-toi dans ma vie. Fais ce qui est nécessaire pour me rendre utile. Parce que notre but avec tout ça, quand on invite la main de Dieu sur nos vies, 2 Timothée chapitre 2, ce que nous cherchons, c'est dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, et sur une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonne œuvre. Quand on prie pour que la main de Dieu soit mise sur nous, c'est pour cette raison-là. C'est parce qu'on veut, Seigneur, être pur, mis à part, utile pour Dieu. Combien sont prêts à prier, Seigneur, mets ta main sur moi. Levez vos deux mains vers le Seigneur. Dites, Seigneur, mets ta main sur moi, Seigneur. Ta main, Seigneur, je t'invite à imposer ta main sur moi, ta main sur ma vie. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Quelque chose de sentimental? Un moment puissant? Un moment béni? Ou est-ce que votre invitation que Dieu met sa main sur votre vie est une invitation qui se mêle, qui s'implique dans vos affaires? C'est lui donner carte blanche. Tu sais, la pire chose que Dieu peut faire, c'est nous laisser tranquille. Nous laisser tranquille. Ça, c'est la pire chose que Dieu peut faire pour nous. Et des fois, on va dire aux gens, « Laisse-moi tranquille. Mêle-toi de tes affaires. » Ou la pire chose qu'on peut dire à Dieu, c'est « Mêle-toi de tes affaires. » Dans le fond, nous, on veut prier, « Seigneur, mêle-toi de mes affaires. Mêle-toi de mes affaires. » 3 fois, ça nous dit en Romains chapitre 1, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leurs désirs. Dieu les a livrés à leurs attitudes, à leurs habitudes, parce que vous ne voulez pas être changé. Le pire chose, des fois, on va passer à travers des tests, des tribulations, des injustices, des douleurs. Puis des fois, on va dire, Seigneur, laisse-moi tranquille. Mais c'est la pire chose que Dieu peut faire. On ne veut pas que Dieu nous laisse tranquille. On ne veut pas qu'il se mêle de ses affaires. On veut qu'il se mêle de nos affaires. Puis quand on passe en travail ces choses-là, c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre parce qu'il croit en vous, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous former à être des personnes utiles. Et vous passez en travail un temps difficile, vous allez passer à travers de tout cela et vous allez être capable de consoler quelqu'un d'autre. Dieu va vous donner la force. Vous passez en travail des périls, des situations tragiques dans votre vie. L'apôtre Pierre, il dit, vous passez à travers la fournaise pour que quand vous arrivez à l'autre côté, vous êtes capable d'aider d'autres qui passent à travers la fournaise. C'est pour devenir quelqu'un d'utile. On n'en a prié jamais, Seigneur, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il faut prier ici ce matin? C'est Seigneur, mets-toi dans mes affaires. Est-ce que vous êtes prêts à prier cela? Mets-toi dans mes affaires. Mets ta main sur moi. Jamais qu'on va dire, laisse-moi tranquille. C'est la pire prière de tout. Et ce que nous prions, c'est Seigneur, sers-toi de tout, toutes circonstances, toutes mes circonstances pour me former. Qu'est-ce que ça nous dit en Romains chapitre 8, verset 28? Je termine dans quelques instants. Vous connaissez très bien ce passage-là. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Est-ce que vous le croyez? Toutes choses. Pas seulement les choses agréables. Pas seulement les choses qui font notre affaire. Toutes choses concourent au bien. Qui veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on ne comprend pas tout ce qu'on passe à travail. Hein? Mais toutes choses. Les hauts et les bas. Les victoires et les défaites. Les personnes qui nous maltraitent comme les personnes qui nous bénissent. Les personnes qui disent des belles choses, les personnes qui disent des mauvaises choses. Dieu est capable de servir nos amis et nos ennemis. Ça ne veut pas dire que tout vient de Dieu, mais Dieu est capable de tout servir. Même l'ennemi, quand il vient attaquer. Même les mensonges, même la persécution. Même les accidents. Même Dan Moreau, qui a cassé sa jambe à 4 places quand il a fait du ski il y a quelques semaines. Imagine, 4 places, mon ami Dan. Fait du ski, il pense qu'il a, il a encore 20 ans. Il a, mon ami Dan, il pense qu'il est encore un jeune homme. Il descend la montagne à Saint-Sauveur il y a quelques semaines, le dernier run de la journée. Pleine vitesse, comme ça. J'ai 20 ans, j'étais encore jeune, j'étais encore capable. Puis il a fait un wipe-out. Puis brisé sa jambe à 4 places. Puis là, ça fait quoi, 6 semaines, là, tu es en convalescence? 7 semaines. 7 semaines où ce qui est à la maison, 7 semaines où ce qui ne peut pas bouger, 7 semaines où ce qui ne peut pas vraiment travailler. Où est-ce que ça devient? Ça, c'est la douleur. Les choses en métal, dans sa jambe, en douleur, difficulté. On passe des moments difficiles quand ces accidents-là arrivent. On dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement de choses à faire. Il faut faire ça, il faut travailler. Je veux bouger, je suis pris à la maison. Et... Pourquoi ces choses-là arrivent? Dieu est capable de prendre même des affaires comme ça. Ça vient pas de Dieu. C'est des choses qui arrivent parce qu'on a fait du ski trop vite puis on a frappé la glace. Mais Dieu est capable, même dans cette période-là, même dans des circonstances un peu difficiles comme ça, il faut permettre que Dieu travaille, enseigne. Dit Seigneur, soit qu'on le croit, on le croit pas. Toutes choses concourent au bien. Pour ceux qui aiment Dieu. Toutes, même les temps, les jours les plus difficiles, douloureux, physiques, émotionnels, familiales, financières, c'est soit qu'on le croit, on le croit pas. Toutes choses concourent au bien. Si nous le croyons vraiment, que la main de Dieu est impliquée dans nos vies, que Dieu veut nous former à travers ces circonstances-là, que Dieu veut qu'on soit des personnes utiles entre ses mains, que toutes choses concourent au bien, la seule chose qui nous reste à faire quand on passe en travers quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est de continuer à aimer Dieu. Parce qu'il dit toutes choses concourent au bien pour qui? Pour ceux qui aiment Dieu. Alors quand moi je passe en travers des injustices, des moments douloureux, des moments de pression, des accidents, des choses que je comprends pas dans ma vie, dans la famille, dans la situation, dans laquelle je vis, je dis, Seigneur, je comprends pas tout. Mais la seule chose que je peux faire, c'est continuer à t'aimer, puis être fidèle à mon appel, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à ceux qui sont appelés, ceux qui sont fidèles, ceux qui aiment le Seigneur. Dieu, l'ennemi va envoyer des affaires, des attaques, des injustices, il va avoir des hauts et des bas, mais c'est correct, parce que Dieu est là, le potier, puis sa main est impliquée dans votre vie, puis il va tout orchestrer et tout former pour que toutes choses concourent au bien. Savez-vous, c'est quoi le bien que Dieu cherche? Il cherche cherche votre bien, que vous soyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui connaît la victoire dans sa vie, quelqu'un qui marche en sainteté et en purité, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui connaît la présence de Dieu dans sa vie, quelqu'un qui est un vase utile, un vase d'honneur entre les mains de Dieu. Alors, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas critiquer, chialer et décourager, il ne faut rentrer pas dans le fatalisme, négativisme, il faut dire, Seigneur, je comprends pas tout ce que je passe en travers, mais je vois que ta main est impliquée et tu me formes, je t'aime, je vais demeurer fidèle et je sais qu'à travers tout cela, je vais être encore une meilleure personne, un homme et une femme de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Peu importe ce qu'on peut se passer en travers. C'est la main de Dieu, la main de Dieu. Quand on invite Dieu dans sa main, la main de Dieu peut travailler tout cela, tout cela, tout ce qu'on peut passer à travail. On invite la main de Dieu. Seigneur, laisse-moi pas tranquille. Agis. Hein, ça nous dit en Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide. Informe et vide. Inutile. Mais Dieu a mis sa main par son esprit. Puis il a fait quelque chose de toute beauté avec ça. Hein, informe et vide à quelque chose de productif, quelque chose de vie. C'est notre prière. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier cette prière. Qu'on prenne un instant. J'avais dit que j'étais pour vous inviter à prier cette prière. Est-ce qu'on peut le faire tous ensemble? Combien sont prêts à dire, Seigneur, mets ta main sur moi. Mets ta main sur moi, non juste d'une façon mystique, Seigneur, d'une façon sentimentale, mais je t'invite à te mêler dans mes affaires aujourd'hui. Levons nos mains, nos voix tous ensemble, le Seigneur. Si c'est votre prière, puis dis, Seigneur, ta main, Seigneur, laisse-moi pas tranquille. Laisse-moi pas aller, Seigneur. Laisse-moi pas aller, Seigneur, mets-toi dans mes affaires. Forme-moi, mets ta main sur moi, ma vie, sur ma tête. Ça nous dit en Jérémie que s'il a donné, il dit, il a travaillé, le potier a travaillé sur un vase d'argile, puis après ça, il l'a mis à côté, puis il a commencé sur un autre. Et quand je lis ça, je dis, Seigneur, je ne veux pas donner ma place à un autre, moi. Moi, je ne veux pas, Seigneur, toujours résister à un tel point que tu vas dire, mais gars, je veux juste travailler avec un autre d'abord. Moi, je ne veux pas donner la bénédiction réservée pour moi à quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas donner le travail réservé pour moi à quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas que Dieu me laisse aller. Qui me dit, mais correct, fais ce que tu veux d'abord. Jamais, jamais. Seigneur, je ne veux pas donner ma place à un autre. Puis vous ne voulez pas donner votre place à un autre non plus. Dieu a une bénédiction pour vous. Dieu a un travail pour vous. Une œuvre pour vous. Tu vas dire, Seigneur, moi. Seigneur, mets ta main sur ma tête, sur ma vie, sur mon ministère et sur ma famille. Et moi, j'aimerais avoir le privilège de prier pour vous. Si c'est votre prière, levez vos mains vers le Seigneur. Seigneur, c'est ma prière. C'est ce que je cherche. Et commence à prier d'en arrière jusqu'ici en avant. Commence à inviter. Hein? Fais l'invitation. Seigneur, mets ta main sur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.